La mission de l'Institut du monde arabe, qui est une institution unique au monde, est précisément de jeter ce pont entre l'Occident et l'Orient. Et Paris, d'une certaine manière, est une sorte de capitale arabe ou orientale en son genre, par l'histoire, par la composition de sa population, par ses liens avec un très grand nombre de pays arabes.
Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez maintenant, avant de retrouver le rendez-vous du médiateur comme un jeudi sur deux, aujourd'hui avec Maïlys Besri, l'économie est-elle culture ? Dans l'actualité des idées aujourd'hui, les Arabes et nous. À l'occasion de la 4e édition des rendez-vous de l'histoire de l'Institut du monde arabe qui s'ouvre aujourd'hui sur le thème « Arabe, français, quelle histoire ?» Objectif, pétrir, malaxer la matière historique pour en saisir toutes les formes et la complexité, pour en arriver aussi et enfin à comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Deux participants avec nous pour évoquer ce nouveau rendez-vous et discuter autour des relations franco-arabes, le diplomate Gilles Gauthier, ancien ambassadeur de France au Yémen, traducteur de l'écrivain égyptien Ala El Aswani, dont on attend avec impatience le prochain roman à la rentrée autour de la révolution égyptienne, conseiller aussi de Jack Lang à l'Institut du monde arabe. Jack Lang, qu'on entendait donc en ouverture, président de l'Institut du monde arabe. Il publie ce mois-ci son autobiographie « Entre deux rives » chez Jean-Claude Lattès. Bonjour Gilles Gauthier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Il parlera de quoi alors ce roman ? Vous avait déjà traduit.
Alors, c'est pas il est sous presse. Dernier roman de Alva Soigny, oui, je vais corriger aujourd'hui les dernières petites fautes et il va paraître à la rentrée.
C'est bien.
Oui, c'est très intéressant parce que ça se passe pendant la Révolution et on a des personnages de toutes les catégories sociales et donc de toutes les opinions par rapport à cette Révolution, c'est passionnant.
Roman polyphonique comme déjà avec l'immeuble Yacoubian, c'est la patte d'Ala El Aswani. À vos côtés, Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe, auteur de nombreux ouvrages de référence sur la question arabe et notamment 5 tomes sur la question de Palestine et aussi sur les relations franco-arabes. En 2012, apparu français et arabe depuis 2 siècles, votre précédent ouvrage. Henri Laurence, bonjour à vous.
Bonjour.
Sous-titré « La chose franco-arabe », c'est ce que disait l'orientaliste Jacques Berck pour marquer peut-être à travers ce mot « la chose », l'ambiguïté de cette relation. Pas pour l'inscrire dans une dimension péjorative, plutôt dans une dimension assez indéfinissable. C'était ça la chose franco-arabe à
oui,
ses oreilles et à vos yeux.
Berck, surtout, il exprime ça dans sa leçon inaugurale au Collège de France au moment de la crise de Suez, donc moment de tension maximale. Et donc, il n'arrive pas à l'identifier, même s'il y a de magnifiques formules comme le français et l'hellénisme du monde arabe, par exemple. Voilà. Et le mot franco-arabe, sa première occurrence à ma connaissance, dans mes travaux que j'ai trouvés, c'est dans un article de Volnet, le philosophe politique, en 1799, à propos de la campagne d'Égypte de Bonaparte.
La chose franco-arabe, comment vous la définiriez, Gilles Gauthier ?
Il y avait un penseur, mais disons quelqu'un, un agitateur d'idées qui s'appelait Stelio Farangis, à l'époque de, donc, qui était à proximité de Mitterrand et qui parlait de Franc-Arabie. Moi, je pense qu'il existe réellement un lien indestructible. On le revoit à travers la présence de la France dans les pays où elle n'avait jamais été et où elle a fini, comme par exemple le Golfe ou comme par exemple l'Arabie Saoudite. La France, dans le monde arabe, fait partie du paysage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas au Caire, Alexandrie, pour beaucoup de gens, on ne peut pas renoncer à la part française de son identité. Et même quand on ne l'a pas parce qu'on est d'un milieu ou qu'on n'a pas accès à cette culture, la France est toujours dans le paysage.
Mais quand on dit Franc-Arabie, quand même, Gilles Gauthier, ça évoque un peu la France-Afrique et une relation qui serait
dans la formulation.
Une relation qui pourrait paraître déséquilibrée, qui pourrait paraître asymétrique. Est-ce que c'est aussi de ça qu'est faite cette relation entre la France et le monde arabe.
Alors ce n'est pas asymétrique, en tout cas au Maghreb ça c'est différent peut-être, mais ce n'est pas asymétrique au Proche-Orient, puisque la France est venue, la langue française est venue par la volonté des habitants de ces régions ou de leurs dirigeants. L'Égypte a été francophile, francophone, depuis que Mohamed Ali a décidé de faire venir des experts français, que ses successeurs ont fait la même chose, et sans qu'il n'y ait une intervention politique. Au Liban, il y a eu un mandat assez court de la France, mais bien auparavant, la France était présente à travers ses écoles. Et donc, les gens de la région n'ont pas le sentiment avec la France de ce déséquilibre dans les relations qui peut exister sans doute au Maghreb.
Henri Laurence, avant de revenir sur l'histoire, nos identités seraient indissociables l'une de l'autre, dit Gilles Gautier. Quelle est notre part arabe ?
Ah ben, elle est absolument importante. Nos orientalistes français ont développé l'idée d'une littérature universelle dès la fin du XVIIe siècle. Et en un sens, les mille et une nuits, avec la traduction de Galland au début du XVIIIe siècle, est un monument de la littérature française autant qu'un monument de la littérature arabe. Si vous prenez aujourd'hui dans la vie quotidienne, on vous dira que le couscous est un plat national français au même titre que le poulet tandoori est un plat national britannique. Et il y a donc de multiples petites parts d'arabité dans la culture française. Prenez tout simplement notre langue dite populaire, avec tous ces mots d'origine arabe, klebs, fouls, etc. C'est l'héritage des troupes arabes combattant dans l'armée française durant la Première Guerre mondiale qui ont fait introduire des dizaines et dizaines de mots dans la langue quotidienne des Français.
Henri Laurence, par quel bout prendre cette histoire des liens entre la France et le monde arabe, longue histoire faite d'interdépendance, si je ne me trompe, le choix pour vous d'ouvrir le livre français et arabe depuis deux siècles sur l'expédition d'Égypte en 1798, pourquoi ce chapitre est essentiel pour comprendre la suite ?
Oh, tout simplement parce qu'avant cette date, on ne peut pas parler d'arabe en tant qu'entité politique ou entité culturelle. Si vous aviez interrogé quelqu'un dans ce qui est actuellement le monde arabe, disons aux alentours de 1750, il aurait dit « je suis de tel lieu, je suis de telle confession, je suis de telle profession, et puis éventuellement je suis ottoman ». Mais l'arabité telle qu'elle s'est construite comme identité culturelle et identité politique s'est construite à travers un long 19e siècle, et les Français ont joué leur rôle d'ailleurs dans cette émergence de l'arabité.
Gilles Gautier, Entre deux rives s'ouvre sur une vision assez pessimiste, voire quand même désespérée des relations. Où en sommes-nous venus à nous haïr, écrivez-vous ? Sommes-nous tombés tout au fond, ou y a-t-il encore un abîme en dessous de l'abîme ?
Vous avez...
Qu'est-ce qui vous pousse à un regard
Mais
aussi...
La fin n'est pas pessimiste.
Elle est pleine d'espoir, on y reviendra.
Pleine d'espoir. Le monde arabe vit une crise terrible, comme il n'en a jamais connu actuellement. De tous les côtés, il y a la situation en Syrie, il y a la situation calme, mais tout de même extrêmement, extrêmement fragile du Liban. Il y a le Yémen, dont on ne parle pas beaucoup, mais je suis venu en parler plusieurs fois à France Culture. Mais il y a le Yémen qui est actuellement bombardé. À l'heure où nous sommes en train de parler, il y a des bombes qui sont en train de tomber au Yémen. Et il y a un Maghreb où le problème du Sahara occidental n'est toujours pas réglé. Et puis il y a cette opposition entre le courant islamiste et ceux qui veulent s'en libérer. Enfin, c'est une situation extrêmement, extrêmement dure. Et je pense, et puis en plus, il y a partout des dictatures. Et c'est quand même aussi ça, le monde arabe. C'est un monde où il n'y a pas un seul endroit, à part peut-être le Liban, où il n'y a pas de dictature. Donc c'est une situation affreuse. Mais au-dessous de ça, il y a une société qui a beaucoup plus de souplesse qu'on imagine, et beaucoup plus de ductilité, beaucoup plus où les initiatives sont paradoxalement parfois beaucoup plus faciles, je peux le remarquer au Caire. Donc ça m'encourage plutôt à l'optimisme, mais c'est l'optimisme au-delà du politique.
Espoir qui est quand même né des printemps arabes, conviction avec laquelle vous écrivez que le monde arabe est entré en mouvement, que ce vieux monde craque de toutes parts, mais pour le meilleur ou pour le pire, il peut aussi se passer des bonnes choses de ce renouvellement.
Et les révolutions ont été une formidable, qu'il y a eu une formidable énergie qui s'est développée, et on ne peut pas imaginer un seul instant que cette énergie a disparu. Elle est là, elle est ailleurs.
Antoine Mercier.
Mais enfin bon, quand même, on est revenu à la case départ. Il y a eu ce mouvement, puis on a l'impression que tout est revenu comme avant. Alors cette énergie, sans doute, est-elle ailleurs, mais on aimerait bien savoir où et comment elle pourrait se réinvestir, finalement.
On est souvent pire qu'à la case départ. On est souvent pire, dans beaucoup de cas. Mais il n'empêche que les gens savent maintenant qu'il y a autre chose qui existe et qu'il y a autre chose qui est possible. Et ça, c'est dans l'esprit de tout le monde. Je suis en contact avec beaucoup de gens qui étaient sur la place Tahrir, avec beaucoup de jeunes qui sont, bien sûr, ils sont tristes, mais ils n'ont pas renoncé.
Mais vous dites que ça passera pas par la politique, alors ça peut passer par quoi ?
Par la culture, par la modification des modes de vie. Par exemple, on ne vit plus du tout en Égypte, surtout. On ne vit plus du tout comme autrefois. Les relations familiales ne sont plus les mêmes. L'individu a maintenant sa place, beaucoup plus. Il l'avait déjà, mais donc il y a tout ça qui amène à une créativité dans beaucoup de domaines, la peinture, la et des tas de gens créent, parfois c'est un petit peu brouillon, parfois c'est n'importe quoi, mais de là, je pense qu'il sortira quelque chose.
C'est une sorte de mai 68 finalement, a les élections après qui ramènent la droite au pouvoir, mais malgré tout, c'est produit quelque chose par ce simple fait qu'une révolution s'est produite.
Oui,
mais si vous voulez, si vous avez 20 ans en mai 68, que vous avez vécu de façon intense les quelques semaines de mai 68, vous en avez pour 50 ans après comme référence, comme mode d'action, etc. Le printemps arabe, pour les centaines de milliers de personnes qui avaient 15, 20 ans, 25 ans, il va porter son ombre jusqu'à 2060. Et donc, par conséquent, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Un autre exemple dans l'histoire très simple, le bref dégel à la chute de Staline, à la mort de Staline, s'est concrétisé 30 ans après avec Gorbatchev. Les hommes qui entouraient Gorbatchev, c'était les jeunes qui avaient connu le dégel dans les années 50 en Union soviétique. C'est cette projection temporelle qui est importante dans le printemps arabe.
Pour comprendre comment aujourd'hui la relation entre la France et le monde arabe peut évoluer, il faut quand même faire un détour par l'histoire et par une histoire encore assez contemporaine et notamment par cette fameuse politique arabe de la France inaugurée par le général de Gaulle. C'était jusqu'ici la singularité de la France, cette politique arabe qui était très particulière sur la scène internationale, spécificité qui s'est perdu peu à peu, et notamment sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui a changé un peu le curseur en se rapprochant de l'OTAN, des États-Unis, d'Israël, là où avant la France était quand même dans un parti pris d'indépendance. Comment raconter cette politique arabe de la France, Gilles Gauthier? Comment s'est-elle construite? Sur quoi s'est-elle fondée?
Elle s'est vraiment fondée sur un choix du général de Gaulle, parce que je connaissais des vieux diplomates, enfin, des gens que j'ai connus quand je suis rentré aux affaires étrangères, qui me disaient que c'était pas du tout joué à l'époque. C'était le choix de l'indépendance de la France par rapport à la politique des États-Unis, et le choix d'une politique plus exigeante à l'égard d'Israël. Ça a continué. Pendant tout le temps où j'ai été aux affaires étrangères, j'étais heureux d'avoir à défendre cette politique qui, effectivement, a changé, a basculé à partir de l'arrivée de Sarkozy au pouvoir. Mais bon, il en reste de cette politique arabe de la France encore une grande attente dans le monde arabe, de ce que pourrait faire la France. Donc pour l'instant, nous sommes, nous, les observateurs, puisque maintenant je suis un observateur, dans l'attentisme. Je ne sais pas encore ce que va être la politique de notre gouvernement dans ce domaine. Pour l'instant, rien n'a été fait qui montre qu'on puisse revenir à une parole forte, comme celle qu'a exprimée l'autre jour l'ancien ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre Villepin.
Dominique de Bilfin. Henri Laurence, cette politique étrangère de la France a aussi fondé, enrichi les liens entre la France et le monde arabe, y compris en termes civilisationnels, en termes culturels, en termes pas simplement politiques. C'est ce qui a contribué à rapprocher la France du monde arabe, l'Occident de l'Orient qu'on oppose en permanence. Vous nous dites que le choc des civilisations, ça reste un mythe, que ça n'a jamais existé hier et que ça n'existera pas demain.
Oui, alors pour la politique arabe, tout simplement, le ministère des Affaires étrangères de l'époque de Gaulle et de ses premiers successeurs avait infiniment plus de moyens que notre actuel ministère qui est réduit vraiment à pas grand-chose.
Financier, vous voulez dire ?
Oui, financier. Mmh. Je veux dire, Jean Gauthier et moi-même, nous avons bénéficié de ce qu'on appelait à l'époque la coopération de substitution. C'est-à-dire qu'il y avait des dizaines de milliers de jeunes Français qui partaient faire leur service national partout dans le monde, en particulier dans le monde arabe, pour donner des enseignements, de la formation technique, etc. Et je pense que entre les quelques dizaines de milliers de coopérants qu'il y avait dans les années 1970-1980 et les quelques centaines de volontaires internationaux ou peut-être 2 ou 3 000 qu'il y a aujourd'hui, il y a un abîme. Il y avait un projet, mais c'est vrai que le terme même coopération de substitution disait que ce projet devait se terminer. C'était coopération de substitution, nous devions fournir les cadres et partir une fois qu'ils avaient plus besoin de nous. Mais en tout cas, la politique arabe, elle s'appuyait sur des moyens financiers dans le domaine du culturel et de la coopération qui se sont largement effondrés aujourd'hui.
Donc
c'est ça le problème. On peut faire de bonnes déclarations, etc., mais nous n'avons plus les moyens qu'il y avait 20 ans ou il y a 30 ans dans cette région du monde comme dans d'autres régions du monde.
Je voudrais peut-être revenir sur le fond de cette relation franco-arabe, cette franc-arabie dont vous avez parlé. Vous avez parlé de ces liens particuliers. Bon, à quoi tiennent-ils au fond, si on regarde un peu ce qu'il y a à l'intérieur des... Je parle de la France, hein, pas seulement de l'Europe, pas de l'Occident, de la France et du monde arabe. Est-ce qu'on peut trouver des raisons pour lesquelles, effectivement, ces liens peuvent se tisser plus facilement que pour d'autres pays européens ?
Moi, je pense d'abord à la langue. À la langue française. Malheureusement, pas à la langue arabe en France, qui n'est pas assez connue. Mais à la langue française, qui est présente d'une façon massive en Afrique du Nord. Mais l'Afrique du Nord, ça représente une bonne partie du monde arabe sur le plan démographique et qui est présente d'une façon massive dans des pays comme le Liban, qui est présente en Égypte d'une façon importante. Le nombre d'écoles qui se sont ouvertes récemment. Je pense que vous n'imaginez pas que dans les 20 dernières années, une dizaine d'écoles françaises se sont ouvertes, de lycées. Donc tout ça, c'est très important. Dans les Émirats Arabes Unis, il y a 500 000 francophones actuellement. Ce ne sont pas des Émiratis, ce sont des Libanais, Mais voilà, la présence culturelle française, pour moi, c'est capital, c'est le centre de notre présence. Et ensuite, la seconde chose, c'était notre politique juste et équilibrée pour ce qui concernait la politique Israël et les Palestiniens. Alors, c'est très important aussi.
Qui en est où aujourd'hui, puisque vous avez l'air de tâtonner sur le présent, sur l'emploi du présent ou de l'imparfait.
Au niveau du langage, c'est très prudent.
Et des actes ?
Alors c'est ça que je ne sais pas.
Il n'y en a pas encore.
Les actes, il peut y en avoir sans que je le sache. Ah.
Je reviens juste au thème, et ça complète la question d'Antoine Mercier, de la 4e édition des Rendez-vous de l'Histoire de l'Institut du Monde Arabe, qui s'ouvre aujourd'hui. Arabe, français, quelle histoire ? Pourquoi avoir choisi, Gilles Gauthier, je vous pose la question, puisque vous êtes, entre autres, l'un des bras droits de Jack Lang à l'Institut du Monde Arabe, pourquoi avoir choisi ce thème aujourd'hui ? Quelle actualité ?
Nous avons choisi, c'est pas du tout Jack Lang ni moi, c'est tout ça, je fais partie du conseil scientifique aussi. C'est le conseil scientifique.
Avec Henri Laurence. Alors, est-ce qu'un des deux peut me dire pourquoi vous avez choisi ce thème aujourd'hui ? En quoi il vous semblait être d'une urgente actualité ?
Je veux dire, il ne faut pas penser les choses en termes d'opposition. Il y a une dimension arabe de la société française aujourd'hui qui est absolument incontestable. Et puis, il y a de longs héritages historiques, même si certains sont tout à fait mythiques. Mais c'est pas important, le mythe. Enfin, c'est important. Vous pouvez inventer l'histoire d'une lettre de Saint-Louis aux Maronites au XIIIe siècle, alors que c'est évidemment un faux, ou parler de... des capitulations de François Ier qui n'ont jamais existé, etc. Mais disons que cette histoire-là, elle est inscrite dans les récits nationaux, dans la vision du monde, etc.
Si j'avais choisi, si c'était moi qui avais choisi le titre, on aurait pu m'accuser d'aller dans le sens de mes intérêts, puisque c'est exactement le sujet de mon livre. Mais vraiment, c'est le hasard absolu, et je suis content de ce hasard, puisque mon livre parle
raconte que vous êtes vous-même entre deux rives.
Ans, de vie du monde arabe, mais bien sûr, je suis français, de vie du monde arabe et de la France, de relation entre le monde arabe et la France.
Il y a un mot qu'on n'a pas encore employé, je crois, c'est le mot islam. Est-ce que ça ne vient pas, là, précisément, aujourd'hui, du fait des événements se dresser comme quelque chose qui finirait par opposer ces liens, enfin rompre ces liens ou les atténuer ?
Gilles Gauthier.
Oui, alors bien sûr, l'islam politique, l'islam tel qu'il est devenu, au-delà de l'islam politique, l'islam tel qu'il est devenu après 50 ans, là aussi, ou plus de prédications salafistes financées par l'Arabie saoudite, qui continue, qui n'a pas encore cessé. J'espère que ça cessera. Cet islam-là est un danger pour le monde arabe. Et pas un danger, c'est quelque chose qui opprime le monde arabe actuellement. Mais je ne suis pas très inquiet dans ce domaine parce que les sociétés arabes commencent à réagir. C'est plutôt ici, en France, que paradoxalement, est le danger. Dans le monde arabe, il y a de plus en plus, par exemple, l'athéisme. C'était un mot qui ne se prononçait pas. Mais la personne la plus avancée ne disait pas ça. Maintenant, c'est courant, c'est devenu banal, c'est presque devenu... J'ai rencontré une petite jeune fille qui disait, pour se rendre intéressante, « Ana mulhida, je suis athée ». C'était devenu comme une façon de montrer qu'elle était avancée. Donc il y a des idées bougent, les idées... Donc dans le monde arabe, les gens vont se ressaisir. Là où, effectivement, c'est un petit peu plus peut-être inquiétant, c'est ici, en France.
Mais en même temps, vous écrivez, Gilles Gauthier, l'islam, c'est bien l'islam qui est en cause et non pas quelques monstrueuses excroissances qu'il suffirait d'extraire pour que le corps saint de la croyance retrouve sa santé. Vous dites, en dehors de quelques tentatives extrêmement minoritaires de réforme, le seul discours qui, dans l'islam d'aujourd'hui, dans l'islam de l'an 2018, se fasse entendre, ne diffère en rien d'essentiel de celui qui sert de doctrine aux dirigeants du califat ou des autres mouvements djihadistes.
Oui, c'est vrai qu'actuellement, si vous... par exemple, Al-Azhar, qui est quand même une grande autorité, le discours religieux d'Al-Azhar ne diffère pas pratiquement du discours de Daesh. Et une dame professeure à Al-Azhar expliquait à des étudiants, la scène a été télévisée, c'est authentique, la femme existe, je le sais, je connais des gens qui la connaissent. Elle expliquait que si, par exemple, l'armée égyptienne envahissait un pays comme Israël, par exemple, qu'à Dieu ne plaise, disait-elle, eh bien, les soldats égyptiens auraient le droit de profiter sexuellement des femmes, et que ça, c'était écrit dans le Coran. Voilà ce qu'on dit à Al-Azhar. On dit des choses comme ça, c'est-à-dire que le langage actuellement, alors bien sûr on peut être un peu plus modéré, mais d'une façon générale, le langage de l'islam officiel est un langage, oui, extrêmement proche de celui de Daesh. Et il faut, alors en France par exemple, vous avez, je ne dis pas son nom parce que le malheureux ça va le desservir, mais vous avez quelques imams rares, très rares, qui ont un autre langage et une autre réflexion. Pas seulement le langage, une réflexion, une interrogation. Parce que le langage, on peut le camoufler, on peut l'arranger. Mais une réflexion profonde, mais c'est très rare.
Donc l'islam, et notamment l'islam de France, devient un défi aussi pour les relations franco-arabes.
Alors il devient une épine pour la société française. Mais il faut que, mais je pense que là aussi, il y aura au sein de l'islam de France des gens qui feront un effort, le djihad, justement. Le djihad, c'est ça, c'est l'effort que l'on fait sur soi-même pour trouver la vérité.
Mmh. Henri Laurence, pour comprendre, parce que l'un et l'autre, vous revenez sur un jeu de représentation plutôt erroné des relations franco-arabes. Quelles ont été pour vous ces principales représentations, ces stéréotypes qu'il a fallu tout au long de vos parcours démonter, peut-être même ceux avec lesquels vous avez commencé à vous intéresser à cette question et sur lesquels vous êtes complètement revenu aujourd'hui?
Non, je veux dire, traiter du monde arabe comme un tout, c'est évidemment faisable si on prend un certain type de regard. Mais malgré tout, vous avez des pays, des situations historiques absolument différentes. Et les relations entre la France et le monde arabe, ce sont des relations différentes en fonction des réalités historiques du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte. À chaque fois, vous n'avez pas la même chose. Parce qu'il y a des héritages historiques, des acteurs différents et une situation différente. On disait tout à l'heure, la francophonie au Proche-Orient a été un choix volontaire, tandis qu'au Maghreb, elle a été plutôt imposée, au moins au départ. Mais inversement, vous avez massivement des gens d'origine maghrébine dans la société française, vous avez relativement moins de proches-orientaux. Oui. D'origine dans la société française. Donc vous avez en fait une bigarrure de situation. Et justement, essayer de cerner en disant les Arabes sont ceci, les Français sont cela, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire.
Je suis absolument d'accord avec Henri Laurence. Avec cette nuance, si vous voulez, toute petite nuance, c'est que le monde arabe, à la différence de l'Europe, est un monde où on circule beaucoup. Donc ce qu'on fait à Damas se répercute ailleurs. Enfin, il y a énormément de circulation. Donc l'image de la France dans le monde arabe, elle circule aussi. Donc si on fait quelque chose à un endroit, c'est connu ailleurs.
Donc il faut bien retravailler aujourd'hui encore sur une nouvelle politique arabe, peut-être ajustée aux nouvelles réalités du monde arabe d'aujourd'hui. Une dernière question d'Antoine Mercier.
Oui, on pense la même chose finalement dans les capitales arabes, dans les pays arabes, parce que là on parle toujours un peu, j'ai l'impression, d'un point de vue français, franco-arabe, franc-arabie. Est-ce que ce sentiment est partagé? C'est peut-être qu'on va voir à ces fameux rendez-vous de l'histoire à l'Institut du monde arabe, c'est-à-dire de sentir aussi la position des pays arabes eux-mêmes, des intellectuels, la manière dont ils conçoivent eux-mêmes cette question, de cette relation-là, et ce qu'ils en disent.
Vous savez, là, encore du point de vue universitaire, du point de vue de la formation, la place de la France au Maghreb est absolument fondamentale. Les intellectuels maghrébins, dans une bonne part, ont encore une formation française et ils se sentent aussi bien chez eux que dans leur pays d'origine qu'en France. Au Proche-Orient, c'est plus compliqué parce que les situations historiques et géographiques sont différentes, mais les Libanais ne se sentent pas étrangers à la société française.
Merci beaucoup, Henri Laurence. Merci mille fois à vous, Gilles Gauthier. Je vous rappelle donc que les rendez-vous de l'histoire du monde arabe, en partenariat avec France Culture, Lima avec France Culture, s'ouvrent aujourd'hui et durent jusqu'au 27. Plusieurs rendez-vous où l'on pourra vous retrouver l'un et l'autre, notamment des tables rondes, et plusieurs rendez-vous aussi coproduits avec France Culture, et notamment une soirée culturelle animée par Marie Richeux. Ce sera demain, vendredi, entre 20h et 22h. Soirée musicale samedi, animée cette fois par Mathieu Conquet. Tout le programme à retrouver sur le site franceculture.fr. France Culture, il est 13h24. Tout de suite, l'heure pour vous de retrouver le rendez-vous du médiateur.
La grande table. Le rendez-vous du médiateur.
Place donc au rendez-vous du médiateur de Radio France, c'est-à-dire vous, Bruno Donas, bonjour.
Bonjour Olivier Jasper, bonjour à tous.
Alors quel rapport entre l'économie et la culture? Pour certains auditeurs, nous dites-vous, l'économie n'aurait pas sa place sur une chaîne culturelle. D'autres, en revanche, plébiscitent l'émission lancée en septembre dernier sur France Culture, Entendez-vous l'écho, émission de Maïlys Bessery qui est avec nous dans ce studio.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Bonjour Maïlys Bessery. Alors oui, pour certains auditeurs, l'économie serait presque un gros mot qui n'aurait pas sa place dans un contexte culturel. Pour Paul, par exemple, nous ne venons pas pour entendre parler de fric, de crise, de sujets sociétaux. Nous venons entendre de la poésie, de la littérature inconnue, de la philo, de l'histoire. Pourquoi l'économie n'aurait-elle pas sa place sur France Culture ?
Alors, deux choses à répondre. D'abord, l'économie, c'est aussi la science économique, les sciences sociales au sens général du terme. Donc, ça voudrait dire que, comme toutes les sciences et comme toutes les disciplines du savoir, elle peut avoir sa place sur France Culture, au même titre que les sciences dures ou que d'autres disciplines de sciences humaines. Moi, je pense que la réflexion en sciences économiques, elle permet aussi de donner des clés pour comprendre l'actualité, pour comprendre aussi le monde, et qu'elle brasse un certain nombre d'idées. Tout dépend de la manière dont on le fait. Alors, je pense que la particularité peut-être d'une émission d'économie sur France Culture, c'est justement ce que dit l'auditeur, à savoir ce que dit Paul, croiser avec d'autres supports. Alors nous, notre langage, c'est peut-être la culture, donc c'est l'histoire, c'est la philosophie, c'est aussi des supports de fiction, donc c'est comme ça qu'on essaie de faire cette émission, en regardant les représentations qu'on peut avoir de l'économie dans le cinéma, dans la littérature, un peu d'ailleurs dans le sens des travaux des économistes. Hein. Thomas Piketty nous parle beaucoup de Balzac dans son Capital au XXIe siècle. On a essayé justement d'explorer tous ces croisements-là, qui sont peut-être une particularité de la chaîne.
Donc, la grande question, l'économie est-elle culturelle ?
L'économie, en tout cas, peut rentrer
dans... C'est un bon sujet de bac, ça ?
Oui, c'est un bon sujet de bac. En tout cas, je pense qu'elle peut rentrer dans une culture générale et que, finalement, apprendre le langage des sciences sociales et des sciences économiques, apprendre la manière dont ces pensées-là se forment et se sont incarnées à travers des grandes personnalités, hein, depuis notamment le XVIIIe siècle, c'est aussi se cultiver et en apprendre un peu plus, peut-être, sur le monde.
Alors, certains auditeurs voudraient un côté élitiste. Vous, vous préférez proposer une approche pédagogique, explicative, pour toucher le plus grand nombre. C'est d'ailleurs le principe de base, on pourrait le dire, de la radio. Comment faites-vous pour rendre les sujets parfois complexes abordables par tous ?
Alors déjà, est-ce que l'on fait ça, la rendre abordable à tous ? Oui, c'est vrai que la science économique, elle a une difficulté particulière, c'est son langage. C'est une discipline un peu jargonnante qui a un vocabulaire complexe. Donc là, oui, un travail de décryptage, et c'est peut-être la mission première du service public que de rendre accessible la compréhension. Est-ce que ça empêche un certain niveau d'exigence ? Je ne le crois pas. Les invités d'Entendez-vous l'écho sont des universitaires, pointus, spécialistes de leur domaine, à qui on demande justement cet effort tous les jours de pédagogie pour essayer de rendre cette discipline moins spécialisée, moins recluse et de la mélanger avec justement le reste du champ des savoirs.
Alors vous avez aussi d'ailleurs des archives sonores, il y a même des chansons d'ailleurs.
Donc, des chansons, des extraits de films.
Voilà, donc c'est très vivant. Alors il y a des auditeurs qui l'ont d'ailleurs très bien compris, comme Mireille, qui vous écoute au Luxembourg, il faut le dire. Merci, écrit-elle, pour cette excellente émission sur l'économie qui invite des spécialistes de niveau universitaire et qui sait établir des liens avec la philosophie, l'histoire, etc. Je recommande votre émission à mes étudiants. Que pouvez-vous leur apporter ?
Alors, je pense que c'est justement cette idée selon laquelle tout ça, c'est la même chose. À savoir, la science économique, les sciences sociales et l'économie qui passe pour une discipline, alors soit dans le champ journalistique chiffrée, extrêmement ennuyeuse, etc. Ou soit dans le champ de la pensée très obscure, ou là encore le champ disciplinaire qui se trompe toujours. Hein, c'est la fameuse blague qui concerne les économistes. L'idée de penser qu'au contraire, c'est proche de la philosophie et que les théories économiques sont en réalité des manières de voir le système économique en le reliant à tout, puisqu'on a vu par exemple cette année que les grandes questions écologiques sont les questions principales de l'économie en ce moment, qu'elles touchent aussi la question des systèmes politiques, mais aussi de la manière dont les pouvoirs publics, mais aussi la société civile se positionnent face à tout cela. Donc c'est en réalité un système global, mondial, qui peut permettre justement de convoquer toutes les autres disciplines de la pensée.
Et la semaine prochaine, vous serez très pratique en fait.
La semaine prochaine, on passe le bac. En tout cas, on le prépare.
Oh ma pauvre, vous le repassez.
Oui, je le repasse. En plus, je n'ai pas passé un bac éco. Alors du coup, je le passe pour la première fois, d'une certaine manière.
On passera avec vous.
Bon, bah, merci beaucoup, Maëlys Bessery. On vous retrouve dans une demi-heure hein, déjà, dans Entendez-vous l'écho, le dernier volet de votre sujet sur les inégalités. Ce sera, je crois, la crise de la solidarité.
La crise de la solidarité.
Un débat d'ailleurs.
Un débat avec trois experts que je vous laisserai découvrir.
Merci bien.
Merci à vous.
Merci Maëlys Bessery. Rendez-vous tout à l'heure donc à l'antenne. Merci à vous Bruno Donas. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau rendez-vous du Médiateur. D'ici là, les auditeurs peuvent continuer à réagir et à vous écrire sur votre site médiateur.radiofrance.fr. On se retrouve donc dans 2 semaines. Quand une grande table se referme, elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr où vous pouvez nous écrire et vous abonner au podcast de l'émission. À la préparation, programmation, Claire Maillot et Clémence Marie, Henri Leblanc et Maxime Morin, avec l'aide précieuse de Liana Valken et de Émile Boutelier, à la réalisation aujourd'hui Perret Legras avec Bruno Gagnère. Merci beaucoup à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle grande table. Et d'ici là, très bel après-midi sur France Culture.